Oui, bon, c'est, je prends celui-ci. Oui, c'est difficile peut-être de, d'aborder, on vous l'a dit, moi je n'ai rien préparé, le, effectivement, leur, sur un vécu hein, de praticien, le, les tabous peuvent se voir chez nous à deux niveaux. D'abord au niveau des consultations, simplement, hein, puisque l'on... voyant des femmes, et c'est vrai que l'attitude de ces femmes aurait pu se modifier au fur et à mesure du temps qui a passé par rapport à notre société maintenant, par rapport à celle d'il y a 20 ou 30 ans. La deuxième, le deuxième élément où on peut le remarquer, c'est au niveau de la consultation proprement dite, c'est-à-dire sur ce que les femmes vont exprimer de façon spontanée ou ce qui va jaillir en fait au cours de la consultation, éventuellement orientée par le médecin, mais où un certain nombre d'éléments vont ressortir. Au niveau d'abord de la consultation proprement dit, du déroulement de la consultation, c'est vrai que, alors ce que disait Mme Calataïude, les mœurs sont quand même beaucoup plus libres actuellement qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. En réalité, dans les consultations, on ne voit pas une très grosse modification du comportement des femmes en consultation de gynécologie. Le, aussi bien sur le plan de se dévêtir, sur le plan des positions qui ne sont pas des positions très agréables pour les femmes. Et c'est vrai que même sur des filles jeunes, très jeunes, en planification ou autre, autant bien sûr parfois on a une grande liberté, autant très souvent on ne voit pas, et je ne vois pas moi une très grosse différence par rapport à il y a même plusieurs dizaines d'années. Donc il y a sûrement un certain nombre d'éléments qui ne se sont pas modifiés à ce niveau-là. Le, au niveau des consultations proprement dites, du contenu des consultations, là aussi très souvent, tout ce qui concerne la sexualité de couple en particulier, le, on se rend compte que les motifs de consultation sont souvent différents. C'est-à-dire qu'au départ, les femmes viennent pour un problème, et c'est en cours de consultation en réalité que va ressortir le problème de la sexualité. Et les femmes gardent toujours, peut-être un peu moins maintenant, mais le gardent toujours, gardent cette difficulté à venir en présentant le motif de consultation d'emblée comme ce problème de sexualité. Et ce n'est souvent qu'à travers des prétextes de douleur, de troubles de règles, etc., que l'on voit apparaître et que se révèle souvent en fin de consultation d'ailleurs, où la consultation repart en fait sur des bases complètement différentes, des problèmes qu'elles n'ont pas osé aborder avant. Ce qui fait que sur un plan du gynéco-praticien, donc pur, je vois peu de différence dans les consultations que je fais actuellement par rapport aux consultations que je faisais il y a une trentaine d'années. Il est plus facile pour le médecin d'en parler, les gens le reçoivent beaucoup plus facilement, mais disons que ce qui vient de la part des femmes, aussi bien dans leur attitude pour la consultation ou que dans ce qu'elles expriment au cours de la consultation et des motifs, je ne vois pas une très très grosse différence avec le temps qui a passé. Ça, c'est simplement donc une réflexion de praticien de terrain.
Oui, alors pour illustrer les choses de façon peut-être un petit peu plus analytique à nouveau, Xavier Santoni a choisi de parler du cas Emmanuel.
Oui, alors c'est vrai que j'ai pensé au cas là, d'une de mes patientes concernant donc avec ce lien avec les tabous qui se prénomme Emmanuel. Alors en fait, cette jeune femme qui a 27 ans et est arrivée en consultation pour on va dire pour des raisons affectives. Bon, c'est une jeune femme qui socialement à sa place, mais qui effectivement a quelques difficultés en ce sens que bon, c'est une jeune femme qui est seule, qui a beaucoup de difficultés à rencontrer donc des jeunes gens de son âge. Et lorsque ça a lieu, ce sont des relations très brèves qui durent juste quelques jours. Et ce qui fait que donc elle se retrouve on va dire affectivement seule avec toute la souffrance que ça peut engendrer. Alors j'ai trouvé que compte tenu de son prénom, ça pouvait paraître, voire même très, très paradoxal, parce que c'est vrai qu'Emmanuel, en plus avec l'âge, avec ses 27 ans, bon, Emmanuel fait penser évidemment à ce célèbre film qu'il y a eu dans les années 70. Et c'est là où on voit tout l'impact en fait du choix d'un prénom, on va dire au niveau de l'inconscient, à savoir que pour un inconscient, en fait, si les parents donc ont choisi ce prénom, c'est qu'a priori ils l'aiment. Hein. Bon, enfin, en général, c'est comme ça que les choses se passent. Et donc l'inconscient va fantasmer en fait que les parents attendent de lui en quelque sorte qu'il représente au mieux ce prénom. Alors, il est bien sûr que dans le choix d'Emmanuel, on peut tout à fait imaginer que l'inconscient de cette jeune femme est donc fantasmé, que l'on attendait d'elle, donc qu'elle soit une sorte d'Emmanuel. Alors, c'est d'autant plus étonnant, c'est que au conscient, c'est une jeune femme qui est, on va dire, qui est très classique, qui n'a rien de provoquant, qui est... j'ai même envie de dire pas tellement moderne. On sent qu'elle est très réservée, très raisonnable dans toutes ses attitudes, et en fait ça c'est au conscient, mais son inconscient lui en fait a engrammé, eh bien, on va dire, l'Emmanuel tel qu'elle a donc été véhiculée au travers de ce film, et ce qui fait que en fait elle attire justement des hommes qui vont la considérer pour des relations de très courte durée, et essentiellement au niveau de la sexualité. Chaque fois, c'est la situation face à laquelle elle se trouve, où elle n'intéresse que dans la relation physique et pas du tout au niveau, on va dire, intellectuel. Donc là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important d'un point de vue... ne serait-ce que d'un point de vue psychogénéalogique, où on voit tout l'impact du choix d'un prénom sur la vie et les modes de fonctionnement de quelqu'un. Et on peut même aller un petit peu plus loin au niveau de, ne serait-ce qu'au niveau phonétique, au niveau des phonèmes qui sont dans ce prénom d'Emmanuel, à savoir que dans ce prénom d'Emmanuel, il y a des phonèmes comme celui effectivement de nu, qui est très évocateur. Dans Emmanuel, il y a également, bon, il y a man, on peut dire l'homme en anglais, donc l'homme avec face à cette femme qui se dénude. Et en fait, on peut même dire que très certainement, à l'époque où le film a été tourné, on va dire que le réalisateur ait pu d'ailleurs de façon très inconsciente choisir ce prénom compte tenu des phonèmes qu'il contient. Alors, y a toutes sortes d'interactions, en ce sens que dans le travail donc, de cette jeune femme, son travail analytique, en fait, elle a permis qu'il soit mis en évidence que sa mère avait idéalisé l'actrice Romy Schneider, et que donc, en fait, le choix du prénom aussi en avait fait partie, très certainement que la mère aurait aimé elle-même être actrice, et qui donc, en fait, elle a projeté sur sa fille ce qu'elle-même n'a pas pu réaliser, mais bon, pas dans n'importe quel choix. Et c'est vrai que, bon, être actrice, eh bien, c'est... on pourrait dire, c'est bon, oui, c'est vrai que c'est faire, effectivement, c'est faire du cinéma, c'est-à-dire c'est ne pas être dans un rôle, c'est ne pas véritablement vivre sa vie. Lorsqu'on dit que quelqu'un fait du cinéma, c'est quelqu'un qui fait semblant, en quelque sorte. Et c'est tout à fait ce que manifeste cette jeune femme, qui en fait ne vit pas véritablement sa vie. Elle est comme ça dans des rôles, mais qui ne lui correspondent pas en tant qu'elle-même. Voilà, donc j'ai trouvé que ce cas était intéressant en lien, donc, effectivement, avec les tabous, où en fait, bon, cette jeune femme, il y a toute cette contradiction, on va dire, entre ce qu'elle souhaite au conscient et, en fait, ce qu'il se passe compte tenu de la perception inconsciente qu'elle a de son prénom. Voilà, je crois que c'est surtout ce qui m'est venu donc à l'esprit comme exemple.